Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Sanhedrin, page 88, Daf Perhet. Bonne écoute et bon limoud.
Le pricha bebgadim, que si un habit dans lequel la lèpre s'est déclarée, puis cette lèpre s'est étendue sur tout l'habit sheitora, que cette lèpre est pure, donc l'habit est déclaré pur. Rabbi Nathan répond, Ne'emra karachat vegabachat be'adam. Le pasouk emploie les termes de karachat et de gabachat concernant l'homme. Il s'agit de la plaie qui se déclare sur la tête, soit sur la calvitie avant, soit sur la calvitie arrière. Ne'emra karachat vegabachat be'bgadim. Et le pasouk emploie les termes de karachat et de gabachat concernant les vêtements. Dans Vaïkayud Gimel, le pasouk veut dire par là qu'il s'agit d'une plaie qui s'est déclarée dans un habit nouveau ou dans un habit ancien. Nous appliquerons une gzera shava à partir de termes de karachat et de gabachat, et nous dirons donc ma lehalan, de la même manière que pour l'homme parach bekulot tahor, si la plaie de la lèpre s'est étendue dans tout le corps, cette plaie est pure, donc l'homme est déclaré pur. Afkan, ici aussi concernant la lèpre qui frappe les habits, parach bekulot, si cette plaie s'est étendue sur tout l'habit, tahor, cette plaie sera pure, donc l'habit sera pur. Les chachamim, eux, pensent que si la plaie s'est étendue sur tout l'habit, cet habit est toujours impur. Donc si le sage rebelle a rendu une décision conforme à l'opinion de Rabbi Nathan ben Abtulmous et il a déclaré cet habit pur, la personne qui l'a touché a eu le droit donc de pénétrer dans le Beit HaMikdash selon l'opinion du sage rebelle. Il a donc permis une interdiction sanctionnée par la peine du retranchement dans le monde futur. Nous avons fini ici le shiur de Sanhedrin Daf Pesahim. Nous commençons le shiur de Sanhedrin Daf Perhet à la quatrième ligne du haut de la page. Nous avons vu précédemment l'opinion de Rabbi Meir que le sage rebelle qui rend une décision de faire contrairement à l'opinion du tribunal suprême ne sera condamné à mort que s'il s'agit d'une interdiction sanctionnée par la peine du retranchement dans le monde futur. Nous avons vu aussi une braïta qui dresse une liste de litiges possibles qui opposeraient le sage rebelle et le tribunal suprême. Rav Huna bar Chinina a demandé à Rava, qui lui à son tour a demandé à Rav Papa d'expliquer cette braïta selon l'opinion de Rabbi Meir. En nous avons expliqué une partie de cette braïta, l'Agmara poursuit l'explication de cette braïta. Nous sommes dans la partie de la braïta qui interprète les termes du pasouk dans le paragraphe concernant le sage rebelle, qui dit « Divrei rivot bisharecha » des paroles de dispute dans tes portes. La braïta interprète « Divrei » lorsque le pasouk emploie le terme de divré, elu ha'arachin, ce terme fait allusion à un litige concernant une personne qui se serait engagée à payer la valeur d'un homme selon les critères fixés par la Torah. Be'acharamim, ou bien cela concerne un litige concernant une personne qui aurait rendu un objet ekdesh en employant le terme de cherem. Ve'ekdeshot, ou bien ce litige concerne un objet qui a été rendu ekdesh. Rav Papa va maintenant expliquer comment ce litige concernerait une interdiction sanctionnée par la peine du retranchement dans le monde futur. Alors, lorsque la Braïta dit « Harachin », un litige concernant une personne qui se serait engagée à payer la valeur d'un homme selon le critère fixé par la Torah, par exemple, si ce litige est le même que « Biplukta de Rabbi Meir Verabanan », que la discussion qui existe entre Rabbi Meir et les Chachamim. Alors, nous devons lire ici des Tanya, parce qu'il a été enseigné dans une Braïta « Hamarich pachot mi ben chodesh » Celui qui s'engage à payer la valeur d'un bébé de moins d'un mois selon les valeurs fixées par la Torah, alors que la Torah n'a fixé de valeur que pour un bébé à partir de l'âge de un mois. Rabbi Meir Omer, noten damav, il donnera sa valeur réelle. Et cela parce que selon Rabbi Meir, nous estimons que cette personne ne s'est pas exprimée en vain. Par conséquent, si les valeurs fixées par la Torah n'existent pas, il s'est donc engagé à payer la valeur réelle de ce bébé. Il n'a rien dit, il ne doit donc rien au Ekdesh. Si maintenant, selon les directives du sage rebelle, si le responsable du Ekdesh a saisi de l'argent à cette personne, conformément à l'opinion de Rabbi Meir, selon Rabbi Meir donc, cet argent est considéré comme étant sacré, et si une personne utilise cet argent pour donner des kiddushin à une femme, donc pour la marier, ces kiddushin ne seront pas valables. Tandis que selon les Chachamim, cet argent n'est pas sacré, par conséquent, ces kiddushin seront valables. Donc, en suivant l'opinion de Rabbi Meir, le sage rebelle a permis cette femme mariée, ce qui est donc une interdiction sanctionnée par la peine du retranchement dans le monde futur. Hacharamim, lorsque la Braïta parle d'une personne qui a sacré un objet en employant le terme de cherem, Biplukta de Rabbi Yehuda ben Betera de Rabbanan, il s'agit d'un litige qui est le même que la discussion entre Rabbi Yehuda ben Betera et les Chachamim concernant le cherem. En effet, il existe deux types de cherem. Il en existe un qui est destiné au Kohanim. Une fois que cet objet qui a été rendu cherem est arrivé entre les mains du Kohen, cet objet est un objet profane qui peut être utilisé par n'importe qui. Il en existe un autre qui est destiné à la réfection du Beit HaMikdash. Celui-ci est considéré sacré. Il est interdit d'en tirer profit. Alors la question se pose, si une personne emploie le terme de cherem sans préciser s'il s'agit d'un cherem destiné au Kohanim ou s'il s'agit d'un cherem destiné à la réfection du Beit HaMikdash. Alors d'Etnan, il a été enseigné dans une Mishnah dans Maseret Arachin d'Av Kafret Amudbet, Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Stam Charamim Lebedek Abayit. Un cherem qui a été prononcé sans précision est destiné à la réfection du temple. Celui-ci est donc considéré sacré. Chez Nehemar, comme le Passouk le dit dans Vaikra Kavzaïn, concernant le cherem, Kol cherem Kodesh Kodashim Hulashem. Tout objet qui a été rendu cherem est considéré comme étant saint des saints, c'est-à-dire un degré de sainteté haut pour Hachem. Vachachamim Omrim, Stam Charamim Lakohen. Un cherem qui a été prononcé sans précision est destiné au Kohen. Chez Nehemar, parce que le Passouk dit dans Vaikra Kavzaïn, concernant le champ qui a été rendu Ekdesh et qui n'a pas été racheté par son propriétaire jusqu'à l'année du Yovel, le Passouk dit Kisdeh Hacherem la Kohen tihie achuzato. Ce champ sera considéré comme un champ qui a été rendu cherem, il sera donc donné au Kohen en tant que patrimoine. Nous voyons donc que le champ sur lequel a été prononcé un cherem est destiné au Kohen. Nous voyons de là que le cherem prononcé sans précision est destiné au Kohen. Imken, si c'est ainsi, Matalmud Lomar Kodesh Kodashim Ulashem, qu'est-ce que le Passouk dit lorsqu'il dit, comme nous l'avons mentionné précédemment, le cherem est saint des saints pour Akadosh Baruch Hu? Les Chachamim répondent, Shechal al Kodesh Kodashim ve'al Kodesh Kalim. Nous apprenons de là qu'il est possible de prononcer un cherem sur un korban qui est considéré comme étant saint des saints, donc dont la sainteté est forte, comme un korban ola, ou bien sur un korban dont la sainteté est plus légère, comme le korban shlamim. Alors, comme la Gemara l'explique dans Masechet Arachin, si une personne prononce un cherem sur un korban, alors s'il s'était engagé à offrir ce korban sous forme de neder, c'est-à-dire s'il a pris sur lui un engagement d'offrir un korban en toutes circonstances, donc de le remplacer s'il venait à disparaître, cet animal est donc considéré comme étant le sien, il devra donc offrir au Beit HaMikdash la contre-valeur de ce korban. S'il s'était engagé à offrir ce korban sous forme de nedava, donc sans engagement de le remplacer s'il venait à disparaître, finalement cet animal ne peut pas être considéré comme étant le sien. Cependant, puisqu'en l'offrant, il retire un plaisir personnel d'avoir offert un korban, il faudra évaluer la valeur de ce plaisir, et c'est cette somme qu'il faudra verser au Hekdesh. Alors pour faire cette évaluation, nous évaluerons combien une personne serait prête à donner pour cet animal, pour l'offrir en tant que korban, quand il n'a pas d'obligation de l'offrir. Nous estimons que si une occasion se présente, donc d'acheter un animal à bas prix, toute personne le ferait. Maintenant, si le sage rebelle a rendu une décision conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda ben Betera, selon laquelle le cherem sans précision est destiné au Hekdesh, cet objet est donc sacré, il est interdit de l'utiliser. La personne qui l'utilise pour donner des kiddushin à une femme, ces kiddushin ne prendront pas effet comme nous l'avons expliqué. Tandis que selon les Chachamim, ce cherem n'est pas sacré et les kiddushin prendront effet. Donc, en suivant l'opinion de Rabbi Yehuda ben Betera, le sage rebelle a permis une femme mariée, ce qui est une interdiction sanctionnée par la peine du retranchement dans le monde futur. Lorsque la Braïta dit Hekdeshot, un objet sacré, il s'agit d'un litige, par exemple, qui est le même que Biplukta de Rabbi Eliezer ben Yaakov Verabanan, que la discussion qui existe entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et les Chachamim. D'Etania, parce qu'il a été enseigné dans une Braïta, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, a filut sinora shel Hekdesh, même pour racheter un espèce de petit crochet dont on se sert pour travailler l'or, qui appartient au Hekdesh, Tzricha Asara ben Adam Libdota. Il faudra la présence de 10 personnes pour la racheter. Sinon, le rachat n'est pas valable et ce crochet appartient toujours au Hekdesh. Donc si le sage rebelle a rendu une décision conforme à l'opinion de Rabbi Eliezer ben Yaakov, selon laquelle un objet du Hekdesh qui a été racheté sans la présence de 10 personnes appartient toujours au Hekdesh, et il est impossible de l'utiliser pour donner les kiddushin à une femme. Donc, en suivant l'opinion de Rabbi Eliezer ben Yaakov, le sage rebelle permet une femme mariée, ce qui est une interdiction sanctionnée par la peine du retranchement dans le monde futur. Nous avons vu dans la Braïta que lorsque le pasouk emploie le terme de rivot, dispute, ze hashka atzota, le pasouk fait allusion à un litige concernant la cérémonie qui consiste à faire boire une certaine eau à la femme soupçonnée d'adultère, varifat ha'egla, ou bien il s'agit d'un litige concernant la cérémonie de la décapitation de la génisse qui se fait lorsqu'on découvre un cadavre dont le meurtrier est inconnu, vetaharat metzora, ou bien il s'agit d'un litige concernant la purification du lépreux. Tous trois, en effet, ont un rapport avec une dispute. En effet, la cérémonie de la femme soupçonnée d'adultère provient d'une dispute entre le mari et la femme. La cérémonie de la décapitation de la génisse provient d'une dispute entre la victime et l'assassin. Et la lèpre est une punition pour la médisance, ce qui est donc aussi une forme de dispute. Alors, lorsque la Braïta dit « Hashka Tzota », un litige concernant la cérémonie qui consiste à faire boire une certaine eau à la femme soupçonnée d'adultère, il s'agit d'un litige qui serait le même que Biplukta de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, que la discussion qui oppose Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Alors, pour que cette cérémonie ait lieu, il faut que le mari ait mis en garde sa femme en lui interdisant de s'isoler avec un tel, et il faudra aussi qu'elle se soit isolée avec cet homme. En Détnan, il a été enseigné dans une Mishnah dans Maseret Sota d'Avet, Hamekane Leishto, celui qui veut avertir sa femme. Rabbi Eliezer Omer, Mekane Alpishnaim, il devra l'avertir en présence de deux témoins, ou Mashka Alpiedechad, il pourra lui faire boire cette eau en s'appuyant sur les paroles d'un seul témoin ou Alpiatsmo, ou bien même par lui-même, si ce témoin ou lui-même l'ont vu s'isoler avec cet homme en question. Rabbi Yoshua Omer, Mekane Alpishnaim, il doit l'avertir en présence de deux témoins, ou Mashka Alpishnaim, et il ne pourra la faire boire de cette eau qu'en s'appuyant sur un témoignage de deux témoins qui l'ont vu s'isoler avec cet homme en question. Maintenant, il est enseigné dans Maseret Sota, Dav Kavdalet, que la femme qui refuse de boire à l'occasion de cette cérémonie perd ses droits d'encaisser la ktouba. Maintenant, si cette femme qui s'était isolée en présence d'une personne et qui a refusé de boire l'eau avait auparavant vendu ses droits de la ktouba à une autre personne, selon l'opinion de Rabbi Eliezer, elle a perdu la ktouba, donc cette personne n'a pas le droit d'encaisser la ktouba. S'il le fait, nous considérons que l'argent qu'il a ainsi obtenu a été volé. Il ne peut donc pas être employé pour marier une femme. Tandis que, selon l'opinion de Rabbi Yoshua, puisqu'elle ne s'est pas isolée en présence de deux témoins, elle n'a pas perdu ses droits de la ktouba, et l'argent appartient réellement à celui qui a acheté ses droits de la ktouba. Il s'agit donc d'un litige qui peut aboutir à permettre injustement une femme mariée, ce qui est donc une interdiction sanctionnée par la peine du retranchement dans le monde futur. Lorsque la Braïta dit « Arifat Egla », un litige concernant la décapitation de la génisse, il s'agit d'un litige qui est le même que « Biplukta de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva », que la discussion qui existe entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva d'Etnan, parce qu'il a été enseigné dans une Mishnah dans Masechet Sota Daf Memhe, qui dit « Me'ayin ayu modidim » à partir de quel endroit du corps de la victime procède-t-on à la mesure? En effet, puisque c'est la ville la plus proche qui doit emmener cette génisse pour la décapiter, il faut savoir à partir de quel endroit du corps faut-il mesurer la distance qui le sépare et la ville la plus proche. Rabbi Eliezer Omer Mitiburo, on procède aux mesures à partir de son nombril. Rabbi Akiva Omer Michotmo, nous procédons aux mesures à partir de son nez. Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer Mimakom Shinaaseh Halal, nous procédons aux mesures à partir de l'endroit où en général il devient cadavre, c'est-à-dire Mitzavaro, à partir de son cou. Maintenant, puisqu'il est interdit de tirer profit de la génisse qui a été décapitée, celui qui s'en sert pour donner les kiddushin à une femme, ces kiddushin ne prendront pas effet, et la femme, donc, n'est pas mariée. Maintenant, si en mesurant à partir du nez de la victime, c'est une ville qui est la plus proche, et si on mesure, par exemple, à partir de son nombril, c'est une autre ville qui est la plus proche, selon un des avis, c'est une des villes qui doit décapiter la génisse, tandis que selon l'autre avis, c'est l'autre ville qui doit décapiter la génisse. Selon le sage rebelle, la génisse qui a été décapitée par la ville qui a suivi ses directives est interdite à l'utilisation. Celui qui l'emploie donc pour donner les kiddushin à une femme, cette femme, selon lui, ne sera pas mekoudeshet. Tandis que selon le tribunal suprême, cette femme sera mekoudeshet. Finalement, ce sage rebelle aura permis une femme mariée. Il s'agit d'une interdiction sanctionnée par la peine du retranchement dans le monde futur. Lorsque la Braïta dit « Taharat Metzora », un litige concernant la purification du lépreux, il s'agit d'un litige, par exemple, qui est le même que « Biplukta de Rabbi Shimon Verabanan », que la discussion entre Rabbi Shimon et les Chachamim. D'Etnan, parce qu'il a été enseigné dans une Mishnah dans Negaim Perek Yudalet Mishnatet, concernant la purification du lépreux. Pour le purifier, comme le Passouk le dit dans Vayikra Yudalet, il faut asperger du sang provenant du Korban Hacham et de l'huile qu'il a offert sur son pouce droit, sur son gros orteil droit et sur le lobe de son oreille droit. Maintenant la Mishnah dit, « En lo bohen yad bohen regel ozen imanit » Si le lépreux ne possède pas de pouce droit ou de gros orteil droit ou d'oreille droite, « En lo tahara olamit » Il est impossible de le purifier. Rabbi Eliezer Omer, noten al mekomo veyotze, il appliquera le sang et l'huile à l'emplacement de l'orteil, du pouce et de l'oreille. Et ainsi, il se rendra quitte de cette mitzvah de l'aspersion, et il sera donc purifié. Rabbi Shimon Omer, noten al shel shmol veyotze, il appliquera le sang et l'huile sur le côté gauche, c'est-à-dire soit sur le pouce gauche, soit sur le gros orteil gauche, soit sur le lobe de son oreille gauche. Et il se rendra quitte ainsi de la mitzvah d'appliquer le sang et l'huile, et le lépreux sera purifié. Alors si le sage rebelle suit l'opinion par exemple de Rabbi Eliezer ou de Rabbi Shimon, qui donne une possibilité de purifier ce lépreux, il le permettra donc par la suite de pénétrer dans le Beth Amikdash. Il s'agit d'une interdiction sanctionnée par la peine du retranchement dans le monde futur. Nous avons vu dans la Braïta, lorsque le pasouk dit « Bisharecha » dans tes portes, cela fait allusion à « Ze leket shikha upea ». Cela fait allusion à un litige concernant les épis qui tombent pendant la moisson, qui sont destinés pour les pauvres, ou bien concernant la gerbe oubliée, qui est aussi destinée aux pauvres, ou bien concernant le coin du champ que le propriétaire doit laisser sans moissonner pour les pauvres. Alors lorsque la Braïta parle d'un litige concernant les quêtes, les épis qui tombent pendant la moisson et qui sont destinés aux pauvres, il s'agit d'un litige, par exemple, comme celui enseigné dans la Mishnah d'Etnan, parce qu'il a été enseigné dans une Mishnah dans Maseret Pea, Perekvav Mishnahe, Shnei Shibolim Leket. S'il y a deux épis qui sont tombés ensemble, ils sont considérés comme étant Leket, c'est-à-dire il faut les laisser aux pauvres. Le propriétaire n'a pas le droit de les ramasser. Shlosha, mais si ce sont trois épis qui sont tombés, Enan Leket, ces épis ne sont pas Leket, le pauvre n'a pas le droit de les ramasser. Shikha, pour l'oubli, Shnei Omarim, si le propriétaire a oublié deux gerbes de blé dans son champ, Shikha, nous considérons cela comme un oubli qui doit être laissé aux pauvres. Shlosha, mais s'il a oublié trois gerbes, Enam Shikha, nous ne considérons pas cela comme un oubli, le pauvre n'aura pas le droit donc de les ramasser. Ve'al Kulan, et sur tout ce qui a été mentionné dans la Mishnah, donc concernant le Leket et concernant le Shikha, Bet Shamayongrim, Shalosh Leani, si ce sont trois épis qui sont tombés pendant la moisson, ou bien si le propriétaire a oublié trois gerbes, ils appartiennent aux pauvres. Ve'arba Lebalabait, tandis que si ce sont quatre épis qui sont tombés pendant la moisson, ou bien si le propriétaire a oublié quatre gerbes, ils appartiennent au propriétaire, le pauvre n'aura pas le droit de les ramasser. En partant du principe que le sage rebelle a agi contrairement à la halakha, nous choisirons l'exemple où le sage rebelle a suivi l'opinion de Beit Shammai. Alors si le pauvre avait ramassé trois épis qui étaient tombés ensemble, ou bien s'il a ramassé trois gerbes qui ont été oubliées, il lui revient donc de droit, selon l'opinion du sage rebelle qui suit l'opinion de Beit Shammai. Et le propriétaire les lui a repris conformément à l'opinion de Beth Hillel. Selon le sage rebelle, le propriétaire se trouve en possession de blé volé. Et si le propriétaire les utilise pour donner des kiddushin à une femme, donc pour la marier, selon le sage rebelle, celle-ci ne sera pas mariée. Finalement, le sage rebelle aura permis une femme mariée, ce qui est une interdiction sanctionnée par la peine du retranchement dans le monde futur. Lorsque la Braïta dit « P.A. » un litige concernant le coin du champ que le propriétaire doit laisser sans le moissonner pour les pauvres, il s'agit d'un litige qui est le même Biplukta de Rabbi Ishmael Verabanan que la discussion qui existe entre Rabbi Ishmael et les Chachamim. Nous devons lire ici des Tania parce qu'il a été enseigné dans une Braïta, Mitzvah Pea le Afrish Minakama. La mitzvah de la Pea, c'est de séparer une partie de la production tant qu'elle est sur pied. Lohifrish Minakama, s'il n'a pas séparé la Pea tant que la production était sur pied, donc il n'a pas laissé un coin du champ sans le moissonner, Yafrish Mina Omarim, il séparera une partie de cette production à partir des gerbes. Lo Yafrish Mina Omarim, en partant du principe que le sage rebelle a agi contrairement à la halakha, nous choisirons l'exemple où le sage rebelle a suivi l'opinion de Beit Shammai. Alors si le pauvre avait ramassé trois épis qui étaient tombés ensemble, ou bien s'il a ramassé trois gerbes qui ont été oubliées, il lui revient donc de droit, selon l'opinion du sage rebelle qui suit l'opinion de Beit Shammai, et le propriétaire les lui a repris conformément à l'opinion de Beit Hillel. Selon le sage rebelle, le propriétaire se trouve en possession de blé volé, et si le propriétaire les utilise pour donner des kiddushin à une femme, donc pour la marier, selon le sage rebelle, celle-ci ne sera pas mariée. Finalement, le sage rebelle aura permis une femme mariée, ce qui est une interdiction sanctionnée par la peine du retranchement dans le monde futur. Lorsque la Braïta dit, PA, un litige concernant le coin du champ que le propriétaire doit laisser sans le moissonner pour les pauvres, il s'agit d'un litige qui est le même Biplukta de Rabbi Ishmael Verabanan que la discussion qui existe entre Rabbi Ishmael et les Chachamim. Nous devons lire ici des Tanya parce qu'il a été enseigné dans une Braïta, Mitzvah PA le Afrish Minakama. La mitzvah de la PA, c'est de séparer une partie de la production tant qu'elle est sur pied. Lohi Frish Minakama, s'il n'a pas séparé la PA tant que la production était sur pied, donc il n'a pas laissé un coin du champ sans le moissonner, Yafrish Mina Omarim, il séparera une partie de cette production à partir des gerbes. Lohi Frish Mina Omarim, s'il n'a pas séparé la PA à partir des gerbes, Yafrish Mina Keri, il pourra séparer cette PA à partir du tas de blé après le battage, Adchelomirho, avant de l'aplanir. Donc, avant que prenne effet l'obligation de prélever le maaser. Mircho, s'il s'est rappelé uniquement après avoir aplani le tas de blé, maaser, il devra tout d'abord prélever le maaser, venotenlo, et il le donnera aux pauvres. Mishum Rabbi Ishmael Amrou, des sages ont dit au nom de Rabbi Ishmael, af mafrish minaïsa, il peut même prélever la PA à partir de la pâte, c'est-à-dire s'il a oublié de prélever la PA jusqu'à ce qu'il ait moulu le blé et jusqu'à ce qu'il ait pétri la pâte, il devra encore prélever la PA. Tandis que selon le premier auteur de la Mishnah, une fois qu'il a moulu le blé, celui-ci a donc subi une transformation. Par conséquent, le propriétaire a acquis toute la production, il ne doit plus donner la PA aux pauvres. Maintenant, si selon les directives du sage rebelle, le pauvre est venu prendre la PA de la pâte, qui lui revient de droit conformément à l'opinion de Rabbi Ishmael, puis il l'a donnée à une femme en tant que kiddushin, donc pour la marier, selon Rabbi Ishmael, et donc selon le sage rebelle, cette femme sera considérée mariée, tandis que selon les Chachamim, puisque cette PA ne revenait pas de droit à ce pauvre, nous considérons qu'il détient un objet volé, les Kiddushin ne sont pas valables. Maintenant, si selon les directives du tribunal suprême, cette femme a accepté des Kiddushin d'une autre personne, puisque selon eux, elle était toujours célibataire, le sage rebelle, quant à lui, l'interdira au second mari et la permettra au premier. Il aura donc permis au premier une femme qui est mariée au second. C'est une interdiction sanctionnée par la peine du retranchement dans le monde futur. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit, Shlosha Batedinin, il y avait trois tribunaux dans le Beit Hamikdash. La Mishnah conclut que si, en fin de compte, le sage rebelle s'oppose toujours à la décision rendue par le tribunal suprême, il sera condamné à mort. Alors la Gemara dit là-dessus, Amarav Kahana, ou Omer Mipéach moi, si le sage rebelle dit que son opinion, il l'a entendu de ses maîtres, Vehen Omrim, et le tribunal suprême dit aussi Mipéach moi, que la décision qu'ils rendent, ils l'ont entendu de leur maître, et non Erag, il ne sera pas condamné à mort. Et cela parce qu'il se peut qu'il ait raison. Ou Omer Kahu Beenai, si le sage rebelle dit que la loi est ainsi à mes yeux, autrement dit, que c'est ainsi qu'il l'a appris, sans l'entendre de ses maîtres, Vehen Omrim, et le tribunal suprême dit, Kahu benenu, la loi est assise à nos yeux, donc sans dire de source, et non erag, il ne sera pas condamné à mort, parce qu'il se peut qu'il ait raison. Le kol sheken, et à plus forte raison, hu omer ipeach moi, que si le sage rebelle dit que son enseignement, il l'a entendu de ses maîtres, vehen omrim, et le tribunal suprême dit, Kahu benenu, la loi est assise à nos yeux, sans dire de source, et non erag, qu'il ne sera pas condamné à mort, parce qu'il se peut qu'il ait raison. Hachi omar, jusqu'à ce qu'ils disent, Kahu benai, que la loi est ainsi à mes yeux, donc sans dire de source, Behen Omrin Mipéach moi, et eux disent que la décision qu'ils rendent, ils l'ont entendue de leur maître. Teda, sache-le que c'est ainsi, Shehare Loharguet Akavia Ben Mahalalel, parce que le tribunal à l'époque n'a pas condamné à mort Akavia Ben Mahalalel, qui s'opposait à la décision majoritaire sur quatre choses, qui sont mentionnés dans Masechet Eduyot Perekhe Mishnah Vav. Et cela, parce que comme nous le voyons dans la Mishnah, Akavia ben Mahalalel avait entendu son enseignement, donc son opinion de ses maîtres. Per Rabbi Lazar Omer, Afilu hu Omer mi piach moi, même si le sage rebelle dit qu'il a entendu son opinion de ses maîtres, Vehen Omrim, et le tribunal suprême dit Kahu benenu, la loi est assise à nos yeux, donc sans dire de source, Neherag, le sage rebelle sera condamné à mort. Et cela, que des Shelo Yerbu Machlokot Beisrael, pour éviter que ne se multiplient les disputes dans le clan Israël. Veim Tomar, et si tu me poses la question, Mipnema Lohargu et Akavia ben Mahalalel, pourquoi n'ont-ils pas condamné à mort Akavia ben Mahalalel, qui s'opposait à la décision majoritaire? La réponse est, Mipne Shelo Hora Halacha Lemaase, parce qu'il n'a pas rendu de décision d'agir selon son opinion. Alors, l'Agma a dit là-dessus, Tnan, voyons voir notre Mishnah. Lorsque le sage rebelle se présente avec ses collègues du tribunal devant le tribunal suprême, il dit « Kach darashti, c'est ainsi que j'ai interprété les psukim, et kach darshu chaveray, et c'est ainsi que mes collègues ont interprété les psukim, kach lamadti, c'est ainsi que j'ai appris, et kach lamdu chaveray, et c'est ainsi que mes collègues ont appris. » Maïlav, n'est-ce pas qu'il s'agit d'un cas de « Hu amar mipi hashmoa » où le sage rebelle a dit qu'il a entendu son opinion de ses maîtres « Vehem omrim kach ubeinenu » et le tribunal suprême disent que la loi est ainsi à leurs yeux, donc sans dire de source, et quand même, on le condamne à mort, et cela puisque la Mishnah ne précise rien. Donc, contrairement à l'opinion de Rav Kahana, l'Agma répond, l'eau, ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre la Mishnah, mais plutôt, c'est de cela qu'il s'agit. « Hu omer kahu be'enai » le sage rebelle dit, « La halakha est ainsi à mes yeux, « Vehem omrim » et le tribunal suprême dit, « Mipi hashmoa » que nous avons entendu notre opinion de nos maîtres. Tashma, viens écoute une preuve. D'Amar Rabbi Yoshia, Rabbi Yoshia dit, Shloshat varim sachli Zeira me'anshei Yerushalayim. Trois choses m'a raconté Zeira des habitants de Yerushalayim. Premièrement, Baal, un mari qui avait averti sa femme de ne pas s'isoler avec une certaine personne, Shemachal al Kinuyo, qui a renoncé à son avertissement, Kinuyo Machul, son avertissement est annulé. Par conséquent, si elle s'isole par la suite, elle ne sera pas interdite à son mari.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous passons à Daf Perhet Amud Bet.
Deuxième enseignement. Ben Sorer More, l'enfant rebelle, Sheratsu Aviv Veimo Limchollo, auquel son père et sa mère ont voulu pardonner ses fautes, donc de renoncer à le traîner en justice pour les avoir désobéis, et ce, même après l'avoir traîné une première fois en justice pour le faire condamner à la flagellation, Mochanilo, on lui pardonne, il ne sera donc pas condamné à mort si ses parents ne le traînent pas à nouveau en justice. Troisième enseignement, Zaken Mamre, un sage rebelle, Sheratsu Beddino Limchollo, à qui son tribunal, donc ses collègues, ont voulu pardonner son opposition, Mochanilo, on lui pardonne, il ne sera donc pas condamné à mort, même s'il s'oppose toujours à la décision majoritaire. Rabbi Yoshia a continué et dit, Ukshebati etzel chaverai shebedarom, et lorsque je me suis présenté chez mes collègues du sud, al shnaim hoduli, ils ont été d'accord avec moi pour les deux premiers enseignements, al zaken mamre, mais pour le sage rebelle, le hoduli, ils n'ont pas été d'accord avec moi, et ce, kedesh lo yerbu machlokot beisrael, pour éviter que ne se multiplient les disputes dans le clan Israël. Nous voyons que la raison essentielle de condamner à mort le sage rebelle, c'est pour éviter que ne se multiplient les disputes dans le clan Israël. Il sera donc condamné à mort, même s'il y a une possibilité qu'il ait raison, contrairement à l'opinion de Rav Kahana. L'Agma a conclu, Tchouftea, effectivement, c'est une réfutation décisive de l'opinion de Rav Kahana. Tanya, il a été enseigné dans une braïta, à Marabi aussi, Mitrila au début, Lo hayu marbin machloket beIsrael. Ils évitaient de multiplier les discussions dans le clan Israël. Alors, comment ils faisaient? Et la Bedim shel Shivim ve'echad Yoshvim ve'lishkat Agazit, il y avait un tribunal suprême composé de 71 juges qui siégeaient dans le bureau en pierre taillée qui se trouvait dans la Hazara, ou Shnei batei dinim shel Esrim ve'shlosha, il y avait en plus dans le Bet Hamikdash deux tribunaux composés de 23 juges. Echad Yoshev al Petach Harabait, l'un siégeait à la porte du mont du temple, ve'echad Yoshev al Petach Hazara, et le second siégeait à la porte de l'enceinte du Bet Hamikdash. Ush'ar batei dinim shel 23 yoshvim bechol ha'yarot Yisrael, et d'autres tribunaux composés de 23 juges siégés dans toutes les villes du Klal Israël. Hutzra hadavar lishol, si une question s'est posée et qui a soulevé une discussion, Shoalin mi bet din shebeiran, ils posent la question au tribunal de leur ville. Im shamu, si les membres du tribunal ont entendu la réponse, amroulahem, ils la leur disent. Veim lav, et sinon, ba'im leze shesamuch leiran, ils se présentent devant le tribunal de la ville d'à côté. Im shamu, s'ils ont entendu la réponse, amroulahem, ils la leur disent. Veim lav, et sinon, ba'im leze shel petach harabait, ils se présentent devant le tribunal qui siège à la porte du mont du temple. Im shamu, s'ils ont entendu la réponse, amroulahem, ils la leur disent. Veim lav, et sinon, ba'im leze shel petach hazara, ils se présentent devant le tribunal qui se trouve à la porte de l'enceinte du Beit HaMikdash. Veomer, et celui dont l'opinion est en opposition avec celle de ses collègues, leur dit, Kardarashti, c'est ainsi que j'ai interprété les psukim, ve Kardarshu Haveray, et c'est ainsi que mes collègues ont interprété les psukim, Kachlamadti, c'est ainsi que j'ai appris la loi, ve Kachlamdu Haveray, et c'est ainsi que mes collègues ont appris. Im Shamu, s'ils ont entendu la réponse, Amroulahem, ils la leur disent, ve Imlav, et sinon, Elu Vailu Ba'in Lelishkat Agazit. Cela et cela, c'est-à-dire le tribunal qui siège à la porte de la Hazara et celui où s'était posé la question à l'origine, se présentait devant le tribunal suprême qui siégeait dans le bureau en pierre taillée qui se trouvait dans la Hazara, chez Sham Yoshvim Mitamid Shel Shachar Ad Tamid Shel Ben Arbaim, où il siégeait à partir de l'offrande du Korban Tamid du matin jusqu'à l'offrande du Korban Tamid de l'après-midi, ou Beshabbatot ou Beyamim Tobim, et les jours du Shabbat ou de Yom Tov, Yoshvim Bachel, il siégeait dans la cour extérieure pour ne pas avoir l'air de juger le Shabbat. Mish'ala She'ela Bifnehem, la question était présentée devant eux. Im Shamu, s'ils ont entendu la réponse, Amru Lahem, il la leur disait. Ve'im Lav, et sinon, Omdim Leminyan, ils procédaient à un vote. Admettons qu'il s'agissait d'une question concernant un objet, s'il était impur ou non, Rabu Ametam'im. Si ceux qui disent que cet objet est impur sont majoritaires, Tim'u, ils l'ont rendu impur. Rabu Ametarim, si ceux qui le déclaraient pur étaient majoritaires, Tiharu, ils le rendaient pur. Mishé Rabu Talmide Shamay Veilel, lorsque se sont multipliés les élèves de Shamay et de Hillel, Shloshimshu Kol Tzorkan, qui n'ont pas servi leur maître suffisamment, autrement dit, qui n'ont pas appris suffisamment chez leur maître, Rabu Machloket Beisrael, les divergences d'opinion se sont multipliées dans le Klal Israël, à tel point que Venaasit Torah Keshne Torot, que la Torah est devenue comme deux Torot. Autrement dit, les divergences d'opinion étaient tellement fortes qu'il semblait y avoir deux Torot. Misham Kotvim Vesholchim Bechol Mekomot, de là-bas donc du Beit HaMikdash, du Tribunal Suprême, ils écrivaient et ils envoyaient des missives dans tous les endroits, avec le message suivant, Kol Mishu Chacham Ushfal Berech, tout celui qui est sage, donc érudit et humble, Vedat Abriot Nochaimenu, et les créatures, donc les hommes, sont satisfaits de sa conduite, Yehe Dayan Beiro, qu'il soit nommé juge dans sa ville. Misham Ma'alinoto Le'arabait, de là-bas, on le fait monter pour faire partie du tribunal qui siège à la porte du mont du temple, pour remplacer un juge qui, par exemple, est décédé. Misham Le'azara, de là-bas, on le fait monter pour faire partie du tribunal qui siège à la porte de la Hazara. Misham Lelishkat Agazit, de là-bas, on le fait monter pour qu'il fasse partie du tribunal suprême qui siège dans le bureau en pierre taillée. Shalchum Etam, les sages ont envoyé l'enseignement suivant d'Eret Israël. Ezehu Ben Olam Haba, quelle est la personne qui mérite une part dans le monde futur? Anvetan Ushfal Berer, s'il est humble et modeste, Shaif Ail Shaif Nafik, il se baisse lorsqu'il rentre et il se baisse lorsqu'il sort, autrement dit, il va et vient humblement. Vegaris Boraita Tedira, il est toujours en train d'apprendre la Torah pour élargir ses connaissances, Velo Marzik Tibuta Lenafshe, et ne s'accorde pas de crédit pour ses connaissances. Yahavube Rabbanan Enaihon Beravula Baraba. Les Chachamim ont dirigé leurs yeux vers Ravula Baraba, qui, selon eux, réunissait toutes ses qualités. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit Chazar le Hiro Veshana, si le sage rebelle est retourné dans sa ville et il a enseigné la loi selon son opinion, il sera exempté jusqu'à ce qu'il rende une décision d'agir selon son opinion. Alors la Gemara dit là-dessus, Tanu Rabbanan, nos Chachamim ont enseigné dans une Braïta, et nos Chayav, le sage rebelle ne sera pas coupable, Hachiase Keorato, jusqu'à ce qu'il agisse selon son opinion, Oshiore la Acherim, ou bien qu'il rende une décision à d'autres personnes, Veyasu Keorato, et qu'ils agissent selon son opinion. Alors la Gemara demande, Bishlama yore la acherim veyasu keorato. On comprend bien encore que le sage rebelle ne soit pas condamné à mort jusqu'à ce qu'il rende une décision à d'autres personnes d'agir selon son opinion. Mais Ikara, auparavant, donc avant qu'ils agissent selon son opinion, l'avbaktalaou, ils ne méritaient pas la mort. Vehashtabaktalaou, maintenant qu'ils ont agi selon son opinion, ils méritent la mort. Et là, Sheyase keorato. Mais lorsqu'on dit qu'il ne sera pas condamné à mort jusqu'à ce qu'il agisse selon son opinion, mais Ikaranami Baktalaou, auparavant, c'est-à-dire même avant d'avoir entendu la décision du tribunal suprême, il méritait quand même la mort pour avoir transgressé une interdiction de la Torah, s'il s'agit d'une interdiction sanctionnée par la peine de mort. Hatinach, nous pouvons encore comprendre Hechad Ore Bechelev Vedam, s'il s'agit d'une décision rendue concernant l'interdiction de consommer le chelev ou le sang, de Meikara Lavbaktalaou, auparavant, c'est-à-dire avant d'avoir entendu la décision du tribunal suprême, il ne méritait pas la mort, puisque ces interdictions ne sont pas sanctionnées par la peine de mort. Vehashta, et maintenant, après avoir entendu la décision du tribunal suprême, Baktalaou, il mérite la mort. Et là, Hechad Ore Bechaive Mitot Beddin, mais s'il a rendu une décision concernant une interdiction sanctionnée par la peine de mort, mais Ikaranami Baktalaou, auparavant, c'est-à-dire même avant d'avoir entendu la décision du tribunal suprême, il méritait quand même la mort pour avoir transgressé une interdiction sanctionnée par la peine de mort. L'Agma répond, mais Ikara, auparavant, c'est-à-dire avant d'avoir entendu la décision du tribunal suprême, Bae Atra, il faut l'avertir avant qu'il commette ce crime pour être condamné à mort. Hashta, maintenant qu'il a entendu la décision du tribunal suprême, Lo Bae Atra, il n'aura pas besoin d'avertissement pour être condamné à mort. La Gemara demande, mais s'il s'agit d'une décision concernant l'interdiction d'entraîner d'autres personnes à commettre l'idolâtrie, de l'obéatra, qui lui aussi n'a pas besoin d'être averti avant de commettre ce crime pour être condamné à mort, Maïka le Memar, que pourra-t-on dire? Quelle différence y a-t-il s'il commet ce crime avant d'avoir entendu la décision du tribunal suprême ou après l'avoir entendu? La Gemara répond, mais Ikara, auparavant, c'est-à-dire avant d'avoir entendu la décision du tribunal suprême, Iamar Tama, s'il dit quelque chose pour se disculper, mais Kablin Almine, on l'accepte, et il sera exempté. Hashta, maintenant, après avoir entendu la décision du tribunal suprême, Yamar Tama, même s'il a quelque chose à dire pour se disculper, l'homme Kablin Almine, on ne l'acceptera pas. Nous avons fini le shiur de Sanhedrin d'Apechet. Nous commençons le shiur de Sanhedrin d'Apechet. Nous commençons d'Apechet à la Mishnah, en bas de la page. En nouvelle Mishnah. Chomer bedivre sofrim mi bedivre Torah. Voici le caractère rigoureux concernant une loi qui a été interprétée par les Chachamim par rapport à celle qui est écrite clairement dans la Torah. Alors la Mishnah explique, Haomer, si le sage rebelle dit en tfilin, il n'existe pas de mitzvah de tfilin qui dès l'avoir al divre Torah pour transgresser les paroles de la Torah, patour, il est exempté. En effet, sa décision ne sera pas considérée comme étant une décision rendu par le sage rebelle, puisque cette mitzvah est connue de tous, n'importe qui peut la lire dans la Torah. Par contre, s'il dit « Chamesh totafot », il faut faire 5 boîtiers pour les tfilines de la tête, le osif al divrei sofrim, pour ajouter sur l'interprétation des chachamim de la mitzvah de tfilin, chayav, il sera coupable. Il sera donc condamné à mort en tant que sage rebelle. En la Gemara dit « Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya » Eno chayav elal davar sheikaro midivre Torah ou perusho midivre sofrim. Le sage rebelle ne sera coupable, donc ne sera condamné à mort, que sur une loi dont les bases sont écrites clairement dans la Torah et les chachamim l'ont expliqué. Veyesh bo leosif, et il y a de quoi ajouter dessus. Veim osif gorea, et s'il a ajouté sur l'interprétation des chachamim, il a diminué, c'est-à-dire il a abîmé la mitzvah parce qu'il a transgressé l'interdiction d'ajouter sur les paroles de la Torah. Et il n'existe que la mitzvah de tfilin qui répond à ces critères. Aliba de Rabbi Yehuda, et cet enseignement de Rabbi Eliezer en nom de Rabbi Oshaya suit l'opinion de Rabbi Yehuda que nous avons vu plus haut d'Af Pesahin Amud Aleph, selon lequel le sage rebelle ne sera condamné à mort que pour avoir rendu une décision concernant une loi écrite dans la Torah et qui a eu besoin d'être expliquée par les Chachamim. La Gemara demande, pourquoi nous disons que ce n'est que la mitzvah de tfilin qui répond à ces critères? Pourtant, il existe la mitzvah de l'ulav, où il faut prendre encore 4 espèces, des ikaro midivre Torah, dont les bases sont écrites clairement dans la Torah, où perusho midivre sofrim, et les chachamim ont interprété cette mitzvah, Veyesh bo leosif, il y a de quoi ajouter. C'est-à-dire si une personne prend 5 espèces au lieu de 4. Veim osif gorea, et s'il a ajouté une espèce supplémentaire, il a diminué, c'est-à-dire il a transgressé l'interdiction d'ajouter sur les paroles de la Torah. Ragma répond, Belulav, concernant la mitzvah de Lulav, Maïsviralan, que pense-t-on? Isviralan de Lulav en Tsaricheged, si on pense que la loi est qu'il n'est pas nécessaire d'attacher le Lulav avec les Hadassim et les Aravot, finalement, même s'il ajoutait une espèce supplémentaire, Haï le Chudekae, celui-ci se trouve tout seul, Vehaï le Chudekae, et l'autre se trouve tout seul. Autrement dit, cette cinquième espèce est considérée comme étant à part, même s'il est interdit de prendre une espèce supplémentaire, il n'a pas abîmé la mitzvah de prendre le lulav, puisque finalement, il a pris chacune des espèces séparément. Ve'is viralan, et si on pense que la halakha est de tzarich eged, qu'il est nécessaire d'attacher le lulav avec les hadassim et les aravot, alors lorsqu'il a attaché une cinquième espèce avec le lulav, garoua ve'omedhu, la mitzvah est abîmée dès le départ, puisqu'à aucun moment nous pouvons considérer que ce lulav était kasher, puisque dès le départ, il a ajouté une espèce supplémentaire. Finalement donc, la mitzvah de lulav ne répond pas à ce critère. Alors la Gemara demande, Ve'aika tzitzit, pourtant il existe encore la mitzvah de tzitzit, Deikaru midivre Torah, dont les bases sont enseignées clairement dans la Torah, au Perusho midivre Sofrim, et les Chachamim ont interprété cette mitzvah, Ve'yesh bo leosif, et il est possible d'ajouter quelque chose sur cette mitzvah, donc d'ajouter un fil supplémentaire ou plusieurs, Ve'imosif gorea, et s'il a ajouté un ou plusieurs fils supplémentaires, il a abîmé la mitzvah en transgressant l'interdiction d'ajouter sur les paroles de la Torah. La Gemara répond, Betzitzit, Maïsviralan, concernant la mitzvah de Tzitzit, que pense-t-on? Isviralan, si on pense que la halakha est de Kesher Elyon Lavdoraita, que le nœud supérieur qui attache les fils à l'habit n'est pas nécessaire mina Torah. Hailuchu Dekae, ve Hailuchu Dekae, celui-ci se trouve seul et celui-ci se trouve seul. C'est-à-dire, lorsqu'il a ajouté un fil supplémentaire, puisque de toute façon, il n'est pas nécessaire de l'attacher, même s'il est interdit d'ajouter un fil supplémentaire, il n'a pas pour autant abîmé la mitzvah de Tzitzit, puisque les quatre fils exigés pour la mitzvah de Tzitzit sont considérés comme étant à part, il a donc quand même accompli la mitzvah de Tzitzit. Ve'is viralan, et si on pense que la halakha est...
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.